direct et podcast sur www.libradio.org.
Donc nous sommes le 10 avril devant l'UIT. L'UIT, c'est l'Organisation internationale des télécommunications, à l'occasion d'un rassemblement, d'une manifestation pour le droit de rester des personnes érythréennes. Alors nous sommes en compagnie de Niat. Bonjour à toi Niat.
Bonjour.
Aldo, bonjour.
Bonjour.
Et Filmon, bonjour.
Bonjour.
Ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez un petit peu et ensuite on va dérouler sur qu'est-ce qu'on fait exactement ici. Enfin, vous avez bien compris l'idée générale, mais on va peut-être aller un petit peu plus dans le détail. Alors Niat, voudrais-tu commencer par nous dire qui tu es en quelques mots?
Ok, alors bah, je m'appelle donc Niat, je suis suisse d'origine érythréenne et je travaille dans le social. Je sais pas si...
Non, très bien, très bien. Et donc tu es toi-même d'origine?
Voilà, mes parents sont d'origine érythréenne.
D'accord.
Et je suis née à Genève.
Ok. Et c'est ça par ailleurs qui t'a conduit à te solidariser et à être ici?
Également.
D'accord.
Ouais.
Aldo?
Moi, je suis chargé d'information sur l'asile au centre social protestant. Donc, c'est mon boulot. Je suis ici pour soutenir ces jeunes.
Également en contact avec asile.ch, peut-être et...
Alors, avec tout un réseau, voilà, d'associations.
Qui est actif depuis un sacré moment, d'ailleurs.
Voilà, hein. Ouais. Exactement.
Très bien. Filmon, et toi?
Bonjour. Bonjour, je suis Filmon Tesva et je suis érythréen.
Très bien. À Genève depuis longtemps?
Depuis 4 ans, et je suis étudiant.
D'accord. Et dans une situation acceptable ou bien c'est problématique?
C'est problématique.
C'est problématique, d'accord,
ouais.
On va revenir là-dessus. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a ce rassemblement. Alors pourquoi avoir choisi cet emplacement devant l'UIT? Y a-t-il une raison particulière?
Oui, c'est là que le Grand Conseil se réunit. Donc c'est un peu exotique pour un rassemblement à Genève, mais c'est là que le Grand Conseil se réunit. Et comme on dépose une pétition qui s'adresse aux députés, eh ben, c'est pour ça qu'on est là.
Très bien. Alors, Niat, voudrais-tu nous dire peut-être, plaçons-nous quelques jalons concernant l'Érythrée. L'Érythrée, on sait que c'est un pays de la Corne de l'Afrique, qui est entouré par l'Éthiopie, le Soudan et Djibouti.
Et l'Éthiopie, ouais.
Et voilà, quelle est la situation en quelques mots?
Alors, c'est une situation assez chaotique. Ça fait donc depuis 1991 que l'Érythrée a pris l'indépendance de l'Éthiopie. Mais c'est une situation aujourd'hui qui est problématique parce que les personnes sont donc mobilisées à l'armée officiellement de l'âge de 18 ans jusqu'à, on va dire, l'âge de la retraite. Il n'y a pas vraiment de sécurité dans le pays aujourd'hui et les jeunes sont obligés de s'enfuir aujourd'hui à cause de cette dictature.
Ouais. Comment s'est installée cette dictature? Est-ce qu'elle est venue par palier? Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où il y a cette indépendance, où donc le Front de Libération de l'Érythrée, populaire de l'Érythrée, prend le pouvoir, eh bien, il y a directement un état extrêmement autoritaire qui se met en place, ou c'est arrivé par palier? Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
En fait, c'est arrivé par palier. C'est vrai que de 91 à 98, ça s'est hyper bien passé. Enfin, le pays prenait un peu son envol. Et puis c'est vrai qu'en 98, il y a eu à nouveau un conflit avec l'Éthiopie, où il y a eu des territoires occupés justement à la frontière. Et dès lors, en fait, le président, il a un peu serré la vis. Et puis clairement serré la vis. Et puis qui, aujourd'hui, depuis, en fait, c'est un peu une situation de paranoïa, quoi.
Voilà, alors on entend même beaucoup de témoignages parlant de prison à ciel ouvert.
C'est ça.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là, selon toi? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, il y a cette dérive autoritaire qui s'installe? C'est le pouvoir qui corrompt, quoi qu'il en soit.
Ouais, je dirais que c'est ça. C'est que je pense qu'au départ, c'est une situation où c'était, voilà, la crainte de l'Éthiopie qui a instauré un peu un régime totalitaire avec tout ce qu'on sait aujourd'hui de l'Érythrée. Et de fil en aiguille, en fait, malgré que la guerre s'est arrêtée de 98 à 2001, ça ne s'est pas du tout amélioré.
D'accord, donc le président, je retrouve son nom.
Isaias Afwerki.
Merci, voilà.
C'est ça.
Je voulais qu'on prononce bien. Alors, Filmon, toi, tu es parti de l'Érythrée pour une raison précise.
Oui.
Si oui, laquelle?
Le problème, j'ai besoin de la liberté et j'étudie. C'est pour ça que je sors.
Et, d'accord. Et tu es arrivé directement en Suisse ou tu as dû...
Non, D'abord, je sors, quand je quitte mon pays, je entre l'Éthiopie, après je vais en Soudan, après je traverse de Libye, et après l'Italie. Je viens d'Italie, après dessus, je viens d'ici.
D'accord. Et là, on voit que bah, déjà, tu parles français, donc c'est tout ce travail d'intégration, il pourrait être mis à mal parce que tu risquerais de devoir retourner en Érythrée.
Oui, sans vent. Oui, sans vent, vrai, pour force contre mon pays.
D'accord. Qu'est-ce qui se passerait si tu devais y retourner? Tu sais déjà ce qui pourrait se passer?
Imaginez, prison.
D'accord. Prison. Ouais. Donc c'est vraiment important que voilà, cette pétition puisse servir à ce que toi et des personnes qui sont dans ton... As-tu d'autres personnes, d'autres amis ou d'autres contacts qui ont un peu suivi le même parcours que toi et qui sont ici à Genève?
Oui, ils sont pleins. J'aime beaucoup. Ouais.
D'accord. Ok. Aldo, alors dis-moi, toi qui es justement dans cette structure, dans cette fêtière, pourrait-on dire, d'association qui est de la société civile, hein, qui se mobilise pour ceci, comment est-ce que tu observes le rapport qui s'installe avec les politiques, avec les institutions? Parce qu'effectivement, s'il y a besoin d'une pétition, c'est problématique.
Bah, je crois que le problème, c'est que les politiques ne sont pas vraiment conscients de la situation dans laquelle on arrive, avec des jeunes qui sont là depuis 3, 4, 5 ans, qui sont relativement bien intégrés, qui projettent leur avenir en Suisse, et puis qui tout d'un coup ont des décisions de renvoi, donc ils se retrouvent dans une situation administrative très précaire, avec beaucoup d'angoisse, d'instabilité psychologique. Et puis, par ailleurs, on sait que il n'y a pas de renvoi qui sont exécutés vers l'Érythrée. Ça n'arrivera pas avant un très long moment. Et du coup, voilà, c'est une situation qu'on laisse pourrir et c'est un énorme gâchis en fait. Et nous, on essaye de mettre ça en avant. Alors d'accord, il y a les politiques d'asile restrictives, etc. Mais là, on est avec une population qui va rester sur le territoire. Et on a tout intérêt, c'est dans l'intérêt de tout le monde que ces jeunes puissent s'intégrer, se former et bien vivre.
Absolument. Alors, que contient cette pétition? Y a-t-il déjà une liste de signataires qui la revendiquent? Et quelles seront les actions qui vont suivre?
Ben, on est à près de 4000 signatures. Donc la pétition, on la remet aujourd'hui au Grand Conseil et puis on va l'adresser aussi au Conseil d'État. Ce qu'elle contient, c'est justement on essaye de faire en sorte que les autorités prêtent attention à cette situation et que, en fait, il y a deux voies possibles. Soit les autorités fédérales reviennent sur leurs décisions négatives et réexaminent et trouvent une manière d'accorder une protection à ces jeunes pour qu'ils puissent rester. Soit on trouve une manière, on dit ok, ben ils n'ont pas l'asile, les autorités ne veulent pas changer leur fusil d'épaule, mais par contre, il va falloir les régulariser d'une manière ou d'une autre pour des raisons de cas de rigueur, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Ça s'est déjà vu dans le passé avec certaines populations qui étaient des ninis, ni renvoyables, ni régularisables. Puis au bout d'un moment, il y a une action humanitaire qui se met en place, une action exceptionnelle, on donne des permis. Et puis la politique migratoire suisse a besoin de ça à intervalles réguliers, tous les 10 ans, 15 ans. Ça arrive, donc voilà, on demande ça. Et là, ça va dépendre aussi de la volonté politique des cantons. Il y a deux acteurs, il y a les cantons et puis la Confédération. Et il va falloir que nous, ce qu'on demande, c'est que le canton de Genève soit proactif auprès de la Confédération pour demander une voie de régularisation. Et finalement, il faudrait que ce type de démarche ait lieu dans les autres cantons aussi. Ça a déjà lieu dans le canton de Vaud, ça a déjà lieu dans d'autres cantons, donc on espère que ça va devenir général.
Donc il y a un précédent dans d'autres cantons, parce que la question que je voulais te poser, c'était justement, est-ce qu'au niveau cantonal, n'ont-ils pas les mains liées, que ce soit le conseil exécutif, le conseil d'État, ou est-ce qu'effectivement, du point de vue cantonal, on peut quand même, ou en tout cas par le grand conseil, bien faire pression et expliquer cette situation et sortir de l'impasse?
Bah, la Confédération, elle ne peut pas se mettre à dos tous les cantons. Donc à partir du moment où il y a beaucoup de cantons qui demandent quelque chose, la Confédération est un peu obligée de les écouter, quoi. Dans l'état actuel de la législation, c'est vrai que le canton n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils ont une toute petite possibilité de régulariser les gens, mais les critères sont assez stricts et ça ne passe pas auprès du secrétariat d'État aux migrations. Donc il pourrait un peu faciliter les choses pour que les jeunes puissent travailler et remplir les critères. Et, mais c'est vrai que ça ne va pas aller uniquement par la voie juridique. Il va falloir à un moment donné prendre langue avec la Confédération et discuter des choses, quoi.
Et alors, selon toi, as-tu pu observer que du côté justement du législateur, hein, du Grand Conseil notamment, eh bien, des soutiens ou des solidarités se manifestaient, ou au moins de la compréhension, et également du point de vue de la part du Conseil d'État? C'est une situation terrible quand même, enfin, on ne peut pas le nier.
Moi, je pense même qu'on peut trouver une majorité sur ce sujet. Je suis assez confiant. Les récents votes du Grand Conseil sur les questions sociales, migratoires, etc., montrent qu'actuellement, dans cette législature, il y a moyen de trouver une majorité. Donc je pense qu'on peut la trouver, ouais.
D'accord, donc quand même un optimisme raisonnable et rationnel, mais un optimiste tout de même.
Ouais, ouais.
D'accord. Niat, on revenir à toi. Comment ressens-tu ce message-là, ce que l'on dit aujourd'hui, ce que vous dites aujourd'hui, dans la population? Est-ce que tu entends que les gens comprennent, ou est-ce que voilà, on est dans une période un petit peu délicate où tout le monde se rassemble sur soi et tout? Est-ce qu'il y a un déni, ou est-ce qu'il y a le fait de dire non, mais pourquoi eux et pas d'autres? Enfin voilà, s'il fallait prendre la température du peuple, comment est-ce que toi tu perçois ça?
Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est une réalité qui est pas vraiment connue de tous. C'est vrai que quand on parle avec les gens, enfin, ne serait-ce que du point de vue européen, on est peut-être le seul pays en Suisse à avoir donné des décisions négatives, donc à des Érythréens, pour émettre des renvois sur l'Érythrée. Et du point de vue de la population, en tout cas genevoise, moi j'ai pas vraiment, à part voilà, les personnes qui sont sensibilisées à cette cause, ou qui sont un peu dans tout ce côté... En contact avec cette population, à part cette population-là, j'ai pas l'impression que ce soit une réalité connue.
Tu sens qu'il y a quand même un déficit d'information, de connaissances.
C'est ça.
Et ça, comment tu l'expliques? C'est que les gens ne s'y intéressent pas?
C'est une question
un petit peu.
C'est une vraie question.
Ouais. Ouais. D'accord. Auquel on n'a pas de réponse.
Je sais pas si elle doute.
Si jamais quelqu'un. Je sais que c'est toujours un petit peu compliqué.
Comment tu interprètes ça?
Ouais. Bon, si quelque chose vous vient. Filmon, pour en revenir à toi. Alors. Comment c'est la vie au quotidien quand on est dans ta situation, si j'ai bien compris, une situation qui est pas stable, qui est pas confortable? Comment est-ce que tu vis ça?
C'est difficile. Ah oui, j'ai reçu 400, maintenant j'ai plus de faim, mais je suis par jour 10 francs. En plus, je suis étudiant. Toutes les journées que je passe en étudiant, en école. Mais j'ai faim quand même. Je sais pas, avant j'ai vécu tout seul. Après, maintenant j'ai un foyer. Mais c'est trop loin que on départ des maisons jusqu'à l'école. Ça fait une heure que je prends le bus.
Ouais. C'est important pour toi de trouver des moments, des espaces, des associations qui se solidarisent, qui te permettent peut-être de rencontrer un peu du monde, d'expliquer ta situation?
Ouais, ça tremble.
Et ça, il y a assez, tu trouves quand même des personnes pour t'aider quand même?
Ouais, 10 personnes, c'est différent. Ça dépend des personnes.
D'accord. Et toi, tu te sens comment? Tu es plutôt optimiste? Tu es quand même un petit peu des fois un petit peu déprimé? Quel est ton état d'esprit par rapport à la situation que tu vis?
Ça me touche. Maintenant?
Oui.
Ça me touche, mais ça fait mal.
Ouais.
C'est trop mal.
Ouais. T'es quand même, t'arrives à rester optimiste quand même, ou il y a des moments où t'as vraiment envie de dire mon Dieu, quoi, c'est pas possible, quoi?
Des fois j'avais trop de stress, je vais pas essayer. Je décide de quitter cette ville comme ça. Des fois j'ai dit ça, mais
ouais, il y a des moments difficiles quand même, alors bien sûr. Ouais, ok. Alors on va doucement arriver à la fin de cet entretien. J'avais encore une question, on n'en a pas encore parlé, mais quelles sont les entités qui organisent ce rassemblement aujourd'hui et qui ont mené cette pétition jusqu'au Grand Conseil? Qui vous répondra ça?
Je crois ça un peu tous les milieux attachés à la défense du droit d'asile. Je crois que les jeunes expriment une certaine inquiétude qui remonte à travers toutes les personnes qui les accompagnent, que ce soit des éducateurs, des éducatrices, des bénévoles, des familles relais, des juristes, des assistants sociaux. Puis tout ça, ça fait qu'à un moment donné, les associations se disent « bon, ben, on doit faire quelque chose, quoi ». Donc en gros, il y a les associations de la coordination asile qui sont CSP, Caritas, l'Agora, enfin les traditionnels auprès des requérants d'asile. Il y a ce qu'on appelle des mouvements solidaires, comme Sakone Accueil, Trois Chaînes Accueil, etc., ce qui sont des mouvements bénévoles un peu nouveaux qui se sont mis en place plutôt dans l'accompagnement social, les activités, etc. Et puis, il y a les jeunes eux-mêmes quoi, qui ont une partie... On essaye de faire en sorte que eux aussi se mettent en avant comme acteurs politiques, parce que c'est ce qu'ils sont là et ils ont une parole à prendre quoi, dans l'espace public.
Bien sûr. Y a-t-il d'ores et déjà des prochaines actions de prévues? Je pense notamment au moment où cette pétition va être remise, puis après elle va certainement, on l'espère, susciter de l'intérêt et des réponses. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose à venir, ou pour le moment c'est l'expectative, c'est déjà remettre cette pétition, attendre un peu les retours, et puis ensuite les choses s'organiseront.
Moi, c'est un peu mon message pour les jeunes, c'est de dire gardez bien vos pancartes, parce qu'elles risquent de servir encore ces prochaines semaines. On sait bien qu'une pétition, ça n'a pas force de loi, mais il y a d'autres motions qui sont en discussion, et je pense que si ce rassemblement aujourd'hui est réussi, et déjà les gens commencent à affluer, les gens ne voient pas ça à la radio, mais ça commence à affluer derrière vous, donc je pense qu'il va y avoir du monde, et je pense que ce sera bon signe et qu'il faudra continuer.
Très bien. Pour en finir, est-ce que pour une personne qui entendrait ces propos et qui souhaiterait se solidariser, réagir, rejoindre un faisceau de solidarité, de quelle manière est-ce qu'elle peut s'informer, de quelle manière est-ce qu'elle pourrait agir? Est-ce que il y a un site internet, une adresse de contact, ou de quelle manière est-ce qu'on peut justement voir et lire et comprendre cette situation et ensuite se mobiliser?
Alors si on tape coordination asile genevoise sur un moteur de recherche, normalement on tombe sur le site où là il y a toutes les associations qui sont listées. Et plus important que les associations, parce que souvent nous on a des activités très précises, on ne demande pas forcément des bénévoles, il faut trouver les groupes solidaires. Donc il y en a dans à peu près toutes les communes genevoises. Donc c'est tous ces mouvements qui souvent se terminent par le verbe accueil. Donc il y a des trois nés accueil, verso accueil, etc. Et puis là, je pense qu'il y a plein d'activités à mettre en place.
D'accord. Très bien. Niat, merci beaucoup.
Merci.
Aldo, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci et courage pour la suite.
Ici John Connor, si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance.
Libradio, www.libradio.org.